Pierre Bollon, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le délégué général de l'AFG, l'Association française de la gestion financière, qui représente donc les sociétés de gestion, hein, dont on parle beaucoup quand on suit les marchés financiers et la bourse. Vous avez lancé un appel quelque part pour que les gouvernements, les responsables, je dirais, des affaires, s'intéressent peut-être plus à l'épargne longue, donc s'intéressent à nouveau à cette épargne longue. Est-ce que vous avez constaté finalement qu'on a laissé de côté cette épargne longue?
Oui, très clairement. Toutes les mesures. Alors, comment dire, il y a un contraste entre ce qui est dit et ce qui est fait. En parole, et on y reviendra sûrement, il y a beaucoup d'encouragement en faveur de l'épargne longue. Je crois qu'il n'y a personne qui dise l'épargne longue c'est mal, les financiers des entreprises c'est mal. Personne ne le dit. Au contraire, on a beaucoup d'encouragement, de paroles verbales en faveur de l'épargne longue. Maintenant, quand on regarde les faits, têtu ou clair et net, que ce soit dans la réglementation ou dans la fiscalité de l'épargne, en réalité, les mesures prises, et ce n'est pas seulement depuis 3 ou 4 mois, hein, c'est depuis bien plus longtemps, l'accumulation des mesures prises, quand on les regarde bien, la plupart est défavorable à l'épargne longue. Et c'est pour ça que nous poussons notre coup de gueule, enfin, en disant, on l'avait déjà dit, mais on le redit à nouveau et on le dira inlassablement, et de plus en plus fort s'il le faut, oui, il est urgent et important de prendre des mesures, mais dans les faits, en faveur de l'épargne longue.
Alors, on est plutôt dans une période où il faut chercher de l'argent, il faut faire des économies, donc des taxes, donc des idées de nouvelles taxes. Donc, si on prend pour l'actionnaire, c'est vrai qu'on regarde où il est taxé aujourd'hui. Celui qui a peut-être un gros portefeuille s'en sort, celui qui en a un petit, il s'en sort pas tellement.
Oui, enfin, ceux qui ont les gros portefeuilles ne gagnent pas beaucoup d'argent non plus. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de matraquage fiscal sur l'épargne en action. Alors, on parle d'abord de fiscalité, mais il faudra bien qu'on parle de réglementation aussi, hein, parce que c'est important. L'Observatoire de l'épargne européenne a récemment fait la compilation depuis 3 ans des mesures sur l'épargne fiscale. Il en a trouvé 27. Bon, déjà, 27 mesures en 3 ans, c'est énorme. On a eu plusieurs lois de finances rectificatives chaque année, les lois de financement de la sécurité sociale, et 27 mesures, et chacune d'entre elles ajoute de la fiscalité à l'épargne. Alors, c'est pas seulement sur l'épargne longue, enfin, c'est largement sur l'épargne longue et sur l'épargne en action. Donc, c'est une accumulation peu à peu. Et puis, évidemment, cet été, avec la loi de finances rectificative de juillet, l'alignement de la fiscalité de l'épargne sur le travail, qui en fait n'est pas même pas véritable, parce qu'il y a plus de fiscalité aujourd'hui sur l'épargne que sur le travail. Le taux de la CSG est supérieur sur l'épargne au travail. Donc voilà, il y a eu en plus cet été, disons, le coup de bambou final, mais mon message, c'est que c'est une accumulation de mauvaises nouvelles avec, entre cet été et cet automne, sur l'épargne salariale longue et les articles 83, enfin sur l'épargne retraite, perco article 83, le passage du forfait social de 8 à 20%, donc plus 12%, avec l'alignement de la fiscalité de l'épargne sur la fiscalité du travail. Voilà, donc il y a... Disons que les choses s'aggravaient systématiquement, inexorablement, avec un dernier coup cet été. Alors, dans le même temps, on a des discours qui sont moins défavorables, il faut bien le reconnaître. On a le Premier ministre, le Président de la République, qui dit qu'il faut financer les entreprises, appelle à mieux financer les PME. On a une mission qui est confiée à deux parlementaires, Karine Berger et Dominique Lefebvre, pour l'épargne longue, qui, si tout va bien, va rendre ses conclusions fin janvier, donc bien sûr pas à temps du tout pour cette loi de finances. On a le président de la République cette semaine, à raison, qui dit qu'il faut conforter, développer l'épargne salariale. Donc on a des paroles positives, mais tous les actes sont négatifs.
Alors, je dirais, au-delà d'inverser la tendance, hein, on va en reparler, on voit aussi que les Français sont investis finalement dans des placements à court terme. Oui. On voit plus du court terme qu'effectivement, et ça c'est embêtant parce que ça veut dire que typiquement, ils ne vont pas pouvoir aller financer peut-être les entreprises.
Les entreprises et les infrastructures et les placements longs. Alors, il faut bien reconnaître aussi que tout ça, cette accumulation d'épargne supplémentaire, de taxation supplémentaire sur l'épargne, ça vient dans un temps aussi où ceux qui ont investi en actions depuis plusieurs années n'ont pas eu des rendements qu'ils pouvaient espérer. Donc il y a en même temps une aversion pour le risque qui a cru ou une, ou une constatation que le risque que l'on croyait était plus fort que ce qu'on, enfin le risque concret était plus fort que celui qu'on anticipait. Donc, en même temps, les épargnants en actions n'ont pas été entre guillemets récompensés fortement par les marchés. Encore que ceux qui ont investi au début de cette année ont eu des plus-values significatives. Donc, dans un contexte où il était déjà pas facile d'investir en actions, d'investir long, on a eu cette accumulation de nouvelles fiscales. Or, qu'est-ce qui se passe sur le financement de l'économie? Parce que il faut prendre les choses par les deux bouts en réalité. Il faut le prendre du côté des épargnants, et notre boulot c'est de défendre les épargnants. Et donc, il y a cette taxation accrue sur des rendements qui ne sont déjà pas faramineux en ce moment. Et puis, on peut le prendre aussi par l'autre bout, qui est l'utilité de l'épargne, qui est bien sûr de rapporter aux épargnants, c'est le but, mais qui est aussi de financer l'économie. Et de ce point de vue-là, il y a urgence d'agir aussi. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qui finance l'économie en général? C'est les sociétés d'assurance, clairement. Alors, sociétés d'assurance, l'assurance vie aujourd'hui ne se développe plus comme avant. Bon, elle se stabilise, mais elle ne se développe plus comme avant. Donc, son apport en new cash, en new money est faible. Et par ailleurs, à cause des nouvelles règles de solvabilité imposées aux assurances par l'Europe, dite solvabilité 2, les assureurs, toutes choses égales par ailleurs, investissent moins en actions. Donc, leurs placements sont stables et sont au moins en action à cause de solvabilité 2, pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que c'est leur réglementation qui leur interdit de le faire. Les banques financent les entreprises, heureusement, elles continuent, et c'est très bien, c'est leur rôle, elles le disent à raison, hein, qu'elles n'ont pas arrêté de financer les entreprises françaises, mais avec les nouvelles règles dites Bâle 3 de solvabilité bancaire qui s'appliquent aux banques, les règles de solvabilité, mais aussi les règles des ratios dits de liquidité de Bâle 3, les banques vont pouvoir faire moins de transformation, c'est-à-dire transformer leurs dépôts courts en placements en prêts longs. Donc les banques, toutes choses égales par ailleurs, vont moins pouvoir financer l'économie. Donc les assureurs ne vont pas pouvoir en faire plus, plutôt moins en actions. Les banques, de même, ne vont pas pouvoir en faire plus, plutôt moins en prêts, et les banques ne feront plus du tout de fonds propres. Résultat, il faut bien que l'épargne de tout un chacun, l'épargne des particuliers, vienne financer les entreprises. On a une chance en France, c'est d'avoir un taux d'épargne élevé des ménages. L'État désépargne, l'État est en déficit. Les entreprises ont du mal à s'autofinancer parce que leurs taux de marge sont faibles. Donc, il ne faut pas compter sur l'épargne de l'État, c'est une désépargne violente. Et l'épargne des entreprises, elle est faible, malheureusement, à cause des taux de marge. Donc, c'est l'épargne des ménages qui doit venir financer les entreprises. Et cette épargne des ménages, elle est trop courte. Et on l'encourage à être courte. Parce que, alors là, l'accumulation des mesures est spectaculaire. On commence par l'augmenter un tiers, puis on va l'augmenter le livret A. Oui. En plus, non seulement il y a l'effet siphonnage du livret A sur les investissements en actions et autres, mais on donne un taux de rémunération du livret A à 2,25% net d'impôts. L'État donne le signe que l'épargne courte sans risque doit rapporter 2,25%. Enfin, tant mieux pour ceux qui ont un livret A, vous en avez un, tout le monde en a, on va pas. Mais ça donne un faux signal sur ce que doit rémunérer l'épargne. Donc voilà, donc il y a le livret A et puis il y a des tas d'autres mesures qui sont prises pour en fait décourager. Or, c'est bien l'épargne des particuliers français qui doit venir financer l'entreprise. Évidemment, on peut aussi faire appel aux fonds souverains asiatiques des pays du Golfe. C'est bien qu'ils investissent chez nous, mais on voit bien que en question de souveraineté, ça pose un problème. Il y a la Banque publique d'investissement, tant mieux, et c'est bien, mais enfin, elle ne va pas pouvoir à elle toute seule financer toute l'économie française.
Alors, les Français, vous proposez, vous, un certain nombre de produits, justement, d'essayer de redonner un certain nombre de produits. Alors, on connaît les produits qui existent déjà, les FIP, les FCPI, les fonds communs de placement.
Ça, c'est pour le non-coté, le capital investissement qui est important, les FIP, FCPI.
On a cette partie-là, et vous dites, par exemple, il faudrait qu'il y ait un PEA PME.
Alors, on propose aussi qu'il y ait un PEA PME en complément. On pourrait remonter un peu le niveau de plafond du PEA normal et faire un PEA spécifique pour les PME, cotées ou non. On pourrait aussi, c'est une deuxième proposition, créer des OPCVM spécifiques pour le placement long. Alors, on a les OPCVM actions, ils sont parfaits, très bien, il ne faut surtout pas les changer, ils rendent leurs bons et loyaux services. Mais les OPCVM est un produit liquide au jour le jour. Et donc, comme le client peut sortir de l'OPCVM au jour le jour, l'OPCVM fait des placements liquides. Et on voit bien que ces placements liquides sont peu adaptés peut-être au financement long de l'économie. Donc, notre idée, c'est qu'on pourrait créer en plus, et pas à la place, en plus des OPCVM actions normaux, des OPCVM, des OPC pour le financement de l'économie, les OPCM, financement productif de l'économie. On peut aussi penser à ouvrir le PERP, qui est le produit d'assurance retraite individuelle. On peut aussi prévoir, on peut penser l'ouvrir au placement direct en actions, en OPCVM, en produits bancaires. Enfin, beaucoup d'idées sont possibles au point de vue réglementaire, sans pour autant bouleverser la fiscalité. Du point de vue fiscal, il faut tout de même enfin prendre la mesure et donc donner un avantage différentiel à l'épargne longue.
C'est-à-dire que redonner quelque part ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire encourager, quand on en veut encourager l'épargne longue, faire en sorte que au bout de 8
voilà.
ans…
C'est-à-dire plus l'épargne est longue, voilà. moins la fiscalité doit être forte, puisqu'il faut que l'épargnant soit récompensé du fait qu'il a bloqué son épargne. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Prenons un exemple très simple sur l'épargne salariale. Je l'ai dit tout à l'heure, on a passé le forfait social de 8 à 20%. On aurait pu, pour la partie PERCO, qui est la partie le plan d'épargne retraite collective d'entreprise, le laisser à 8. C'est-à-dire qu'on augmentait à 20% l'intéressement de la participation perçue directement. Enfin, nous, on n'est pas pour, je me place dans l'hypothèse où l'État a besoin d'augmenter. On augmente la taxation de la partie courte, mais on laisse tranquille dans la partie longue, le PERCO ou l'article 83 assurance. Voilà. Qu'on profite, nous on préférait baisser la fiscalité de l'épargne. Enfin, si elle augmente, quoi, tout le moins, on augmente moins la fiscalité sur l'épargne longue que la fiscalité sur l'épargne courte. On recrée un différentiel.
Voilà, et ben on verra si effectivement c'est suivi des faits.
Oui,
si
oui,
on
pour l'instant, c'est un peu vox clamantis in deserto, mais enfin, nous continuerons à le répéter inlassablement.
Merci Pierre Wallon d'avoir fait le point avec nous, donc délégué général de l'AFG.
Merci Didier.